Bernard Thibault veut faire progresser les droits sociaux dans le monde.
Invité à Volx par l'Assemblée citoyenne du bassin manosquin et l'Union départementale de la CGT 04, l'ancien patron de la centrale syndicale a rassemblé une centaine de personnes. Au menu des échanges, la présentation de son livre « La troisième guerre mondiale et sociale » paru aux éditions de l'Atelier. L'ex-numéro 1 de la CGT siège aujourd'hui à l'Organisation internationale du travail, structure née en 1919 à la suite de la Première Guerre mondiale. L'OIT regroupe 32 États, dont la France, et œuvre pour la justice sociale. Elle établit une sorte de code du travail international où elle prône, entre autres, l'égalité salariale, le droit d'association et de grève, la lutte contre le travail forcé ou les violences au travail, dont les violences sexuelles, d'une triste actualité depuis un an. Il faut rappeler aux jeunes générations comment les droits sociaux ont été acquis, précise-t-il, en soulignant entre autres que seulement 90 pays sur 200 reconnaissent aux travailleurs le droit de grève, ou bien encore que 168 millions d'enfants travaillent chaque jour dans le monde. Et puis Bernard Thibault tape du poing sur la table. La guerre sociale est une réalité. 2 700 000 personnes meurent au travail, accidents ou conditions de travail notamment, plus que tous les conflits actuels réunis. Dans l'interview qui suit, le tribun du syndicat des salariés évoque cette guerre mondiale sociale, mais aussi la place des syndicats aujourd'hui et également une radio pirate que la CGT a créée en 1977 à Longwy pour défendre la sidérurgie en Lorraine. Avec Radio Caroline pour la musique, Lorraine Cœur d'Acier préfigurait l'émergence des radios libres comme celle d'où je parle et que vous écoutez. Bernard Thibault, le terme est fort, la Troisième Guerre mondiale.
Oui, la Troisième Guerre mondiale est sociale. C'est le titre de l'ouvrage que j'ai sorti il y a maintenant 2 ans. D'aucuns considéraient que c'était un titre un peu provocateur. Accrocheur, ça c'est délibéré, mais allant peut-être au-delà, un mot ou une formule un peu forte. Pourquoi j'ai utilisé ce terme de guerre mondiale, qui est sociale? C'est parce que je siège depuis 2014 sur les bancs de l'Organisation internationale du travail. Je représente les travailleurs français à l'OIT, l'Agence des Nations unies spécialisée dans la quête de la justice sociale avec le droit international du travail. C'est un vaste, vaste sujet et vaste programme. Et je constate combien, au travers de cette institution, la mise en concurrence des travailleurs aujourd'hui est exacerbée à un point tel qu'on puisse parler de guerre mondiale. Il y a peu de personnes qui savent qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a davantage, par exemple, de décès de travailleurs du fait des maladies professionnelles, des accidents du travail, qu'il n'y a de morts provoquées par les guerres et les conflits réunis. Il y a plus de morts par le travail dans le monde que de morts par les guerres réunies. Donc cette mise en compétition est une guerre économique, une guerre technologique, et elle a des répercussions sociales très fortes. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'une troisième guerre mondiale, sachant que chacun sait bien qu'il y en a eu déjà 2 précédentes guerres mondiales, mais avec un profil et des motivations tout à fait différentes.
L'objectif de votre livre, c'est justement de dénoncer, mais c'est aussi de proposer des choses.
Oui, une des premières motivations, notamment dans un pays comme la France, où il est commun de dire que les droits sociaux sont plus développés que dans bien des pays, ce qui est une réalité, ce qui n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi la conséquence très directe des luttes syndicales, politiques, de notre histoire politique, qui font que chez nous, il y a des congés payés, il y a la sécurité sociale, il y a le droit syndical, il y a un certain nombre de règles contenues dans le Code du travail, même si elles sont l'objet de polémiques régulières, chacun le sait bien, avec les gouvernements tentés de les revoir, de les affaiblir. Et donc j'ai considéré qu'il était très important dans un pays comme le nôtre, où les droits sociaux sont parmi les plus développés, de faire connaître l'environnement international, parce que chacun voit bien que chaque jour, on nous oppose, pour tenter de justifier des reculs sociaux, la compétitivité internationale, les comparaisons internationales. Comment fait-on ailleurs? Et donc j'ai voulu informer, mieux informer, l'OIT est très mal connue, mieux informer sur la réalité des droits dans le monde aujourd'hui, pour mieux se situer dans les combats sociaux en France, et aussi ne pas connaître que ce qui est fait à l'extérieur a forcément des répercussions chez nous. Lorsque vous avez par exemple 60% des emplois aujourd'hui qui sont dans l'économie informelle, l'économie qui n'est pas déclarée, où on ne paye pas d'impôts, où on ne paye pas de cotisations sociales, il est évident que le terme de la compétitivité, de la comparaison de ce que coûte un travailleur français vis-à-vis de travailleurs d'autres continents n'a aucun sens, ou alors on ne prend pas en considération la dimension humaine. Et donc j'ai voulu à la fois alerter sur les tendances actuelles. Nous avons à la fois des progrès s'agissant de l'extrême pauvreté dans le monde, mais nous avons un certain recul des droits sociaux, y compris des droits les plus fondamentaux. Et en même temps, montrer combien une partie de la réponse se trouve à l'échelle internationale. Ignorer ce qui se passe à l'extérieur ou prétendre uniquement défendre nos droits dans un cadre strictement et uniquement national est une impasse. Une des manières de préserver notre droit, c'est de faire en sorte que ceux qui en ont le moins possible progressent à leur tour le plus vite possible. Sinon, nous serons les uns et les autres aspirés par une spirale très négative.
Vous pardonnerez ce paradoxe. On va revenir en France, si vous voulez bien. Vous avez été secrétaire national de la CGT pendant plusieurs années. Quel regard vous portez sur l'action syndicale à l'heure actuelle ?
Il n'y a pas un pays où le syndicalisme, c'est-à-dire la forme d'organisation collective qu'ont mis au point les travailleurs depuis le début du 19e pour s'organiser face aux employeurs, pour peser davantage dans le rapport social, il n'y a pas un pays où le syndicalisme soit en bonne santé. Partout, la précarité du salariat, la multiplication des types de contrats de travail, la précarité dans les horaires, la mobilité très souvent imposée, non pas celle choisie par l'individu, mais celle qui est imposée par des entreprises de plus en plus multinationales. Aujourd'hui, on recense à l'OIT à peu près 80 000 multinationales qui ont un impact sur un emploi sur 5 dans le monde. Autrement dit, les décisions qu'elles prennent vont entraîner du positif ou du négatif pour un emploi sur 5. Et les projections nous laissent entendre que la proportion va passer à 1 sur 4. Autrement dit, vous pouvez travailler dans une petite entreprise, dans n'importe quel département, dans un cas sur 5 aujourd'hui et bientôt 1 sur 4, votre devenir va dépendre de choix de multinationales qui, par définition, ont un siège sur un autre continent et peut-être même leur compte en banque dans un autre pays, etc., etc. Et donc, la forme de syndicalisme national ancrée sur des branches professionnelles et des métiers se trouve déstabilisée. Et encore, je ne développe pas sur d'autres formes ou d'autres rapports sociaux qui sont en train d'émerger, voire de se développer. Les formes d'auto-entrepreneuriat, le travail sur la base de plateformes numériques, où la polémique existe d'ailleurs pour faire reconnaître une forme de salariat déguisé, dans la mesure où les donneurs d'ordre, au travers de ces plateformes, essayent de s'extraire de leurs obligations sociales, de leurs obligations en matière d'impôts et de leurs obligations sociales. Donc il y a besoin de travailler sur un renouvellement, je dirais, des formes d'organisation syndicale, parce que le syndicalisme n'est pas dépassé dans son principe. Il y a toujours besoin d'avoir une forme d'organisation collective pour les travailleurs, de façon à améliorer leur quotidien et prétendre avoir une influence sur la société. D'autant plus que beaucoup de défis pour l'ensemble de l'humanité sont liés à la manière dont on travaille. On ne peut pas être préoccupé de l'avenir sur le plan environnemental sans s'intéresser à la manière dont on travaille, la manière dont on commerce, ce qu'on produit, les conditions dans lesquelles on les produit, on les commerce à l'échelle internationale. Donc il y a des relations très directes. S'intéresser au travail, intervenir sur les conditions de travail, c'est aussi intervenir pour faire en sorte qu'un certain nombre de défis plus larges soient relevés avec l'intervention des travailleurs eux-mêmes. Donc la nécessité de syndicalisme est, de mon point de vue, loin d'être dépassée. Aux syndicalistes eux-mêmes de réfléchir aux formes permettant aux salariés de s'organiser dans le cadre d'aujourd'hui, ce qui est incontestablement plus difficile, plus délicat que pour des générations précédentes.
Une dernière question qui émane d'une radio associative, Bernard Thibault. Dans les années 70, votre syndicat a mené une lutte pour maintenir la sidérurgie en Lorraine et vous avez créé une radio, c'était en 1977, Radio Lorraine Cœur d'Acier. Qu'est-ce que vous gardez de cette leçon particulière qui est arrivé à l'émergence des radios comme la nôtre dans les années 80?
Alors, 77, pour tout dire, c'est l'année de mon adhésion à la CGT. Je commençais à travailler et c'est dire que je suis né syndicalement, un peu au même moment que cette radio. J'en ai néanmoins un souvenir important parce que, vous le rappelez, cette radio libre, dans un paysage où, à l'époque, les radios libres, dites libres, n'existaient pas. Ça a été une action militante que de mettre au point, faire fonctionner une radio en dehors des règles établies. Elle a servi principalement de support à la conduite du combat des sidérurgistes pour essayer de sauver à la fois l'activité industrielle et les emplois, principalement dans l'Est de la France. Et j'ai souvenir, dans mes premières années de militantisme, aux nombreuses initiatives, dont celle qui consistait à venir manifester à Paris de sidérurgistes en très grand nombre, et pas uniquement eux, y compris les populations concernées par leur activité, voire des réseaux de commerçants qui, naturellement, voyaient leur avenir dépendre du devenir de cette industrie. Et j'ai donc le souvenir de grandes mobilisations de l'époque avec des forces syndicales. Dans l'unité syndicale, ça n'était pas toujours un long fleuve tranquille, mais quand même, le réflexe d'unité était présent. Donc ça fait partie des grands moments de mobilisation autour de cette radio, comme support de sensibilisation, d'information et de mobilisation pour ces rendez-vous.